La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Très heureux de vous retrouver pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale avec les trois invités de cette émission. Je salue tout d'abord Laura Verlac, porte-parole du groupe Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Je salue également Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain. Et je salue enfin Gabriel Robin, journaliste et essayiste, contributeur des sites Causeur et Atlantico, directeur de l'agence Monceau. Bienvenue à tous les trois, merci d'être au rendez-vous de la mêlée pour débattre dans un premier temps autour de l'anniversaire de bien tristes événements. Nous commémorions en effet ces 7, 8 et 9 janvier à Paris et dans de nombreuses villes françaises les 10 ans des attentats de 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Il s'appelait Frédéric Boisseau, Cabu, Charb, Honoré, Tilnius, Volinsky, Elsa Kayat, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Franck Brinsolaro, Michel Renaud, Ahmed Merabet, Clarissa Jean-Philippe, Yoav Attab, Johan Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada. Ces 17 personnes sont tombées sous les balles des frères Kouachi et d'Ahmed Koulibaly. Depuis cette semaine funeste qui plongea le pays dans l'effroi et la sidération, la barbarie islamiste a encore frappé et semé la borne à de nombreuses reprises. Au Bataclan, à Nice ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, elle a tué le père Hamel, les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, sans oublier les nombreuses agressions commises en son nom dans la rue ou au sein d'établissements scolaires. 10 ans après, comment la situation a-t-elle évolué en France face à la pression et à l'entrisme des islamistes? Et où en est la liberté d'expression dans notre pays? C'est Laura Verlac qui va répondre la première à ces questions qui ne sont pas simples, j'en conviens.
Bonsoir et merci pour cette introduction qui rappelle bien sûr un souvenir très vivace de l'année 2015, une année de l'horreur. Voilà, on voit fleurir ces derniers jours beaucoup de dommages qui m'ont causé beaucoup bien sûr d'émotions. Les souvenirs de l'horreur sont vifs et en même temps moi j'ai envie de, enfin ça m'a créé aussi un sentiment en quelque sorte un petit peu d'espoir d'avoir vu fleurir tous ces hommages. J'ai trouvé ça plutôt rassurant. J'ai trouvé rassurant le dernier sondage les opinions favorables des Français quant à la liberté d'expression et de caricature, qui est passé de 76% d'opinions favorables aujourd'hui contre 58% en 2012. Alors bien sûr, comme vous le disiez, il y a sans cesse des attaques qui sont faites contre cette liberté d'expression. Bien entendu, rien ne pourra jamais justifier les massacres qui ont été commis. On le sait trop bien ici, en plus, à Toulouse. On le sait pour tout ce que vous avez cité. Pour moi, aujourd'hui, il y a aussi des attaques qui sont faites contre la liberté d'expression de toutes parts. Vous en avez cité quelques-unes. Il y en a aussi qui sont très récentes, qui sont faites quelques-uns qui menacent, qui ont une hégémonie et qui cherchent plutôt à répandre les fake news et leurs idées démentielles au mépris de la démocratie et du droit international. Donc bien sûr ça reste
vous pensez à Elon
surveiller
Musk,
bien entendu
peut-être à d'autres, mais bon ça, on y viendra éventuellement à ce sujet là Pour vous, la liberté d'expression, je reviens sur la deuxième partie de ma question par rapport à ce qu'elle pouvait être en 2015. Comment a-t-elle évolué depuis? Est-ce qu'elle a régressé? Est-ce qu'aujourd'hui, sans parler de censure, est-ce que l'autocensure est très active dans notre pays, peut-être pas seulement dans le nôtre d'ailleurs, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'imposer la censure, elle se fait d'elle-même?
C'est une question compliquée, effectivement. Pour moi... je pense qu'on garde quand même cet esprit en France et en Europe de cette impertinence. Elle existe encore aujourd'hui elle doit être préservée et nous on la chérit aussi. C'est quelque chose de très important.
Alors, on va passer la parole à Guillaume Agulot. Donc, je répète ma question. 10 ans après les attentats de janvier 2015, comment la situation a-t-elle évolué en France face à la pression à l'entrée islamiste? J'y tiens. Et où en est la liberté d'expression dans notre pays?
Bonsoir et merci pour votre invitation. Avant de répondre à vos questions qui sont fondamentales, qui sont structurantes, par rapport au nom que vous avez donné tout à l'heure, moi je voulais aussi rajouter le nom de Simon Fietschi, qui était le webmestre du journal Charlie Hebdo, qui avait été très très grièvement blessé lors de l'attaque et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et je tenais aussi à ce que son nom soit associé à cet hommage à ses disparus. Pour répondre à vos questions, je vais commencer par la seconde. Alors vous, j'ai entendu, vous avez expliqué, c'est une question qui est effectivement un petit peu compliquée à répondre sur la liberté d'expression. Je pense qu'au contraire, elle est très très simple à répondre. La liberté d'expression n'arrête pas de reculer dans notre pays. La liberté d'expression est de plus en plus menacée dans notre pays, y compris par un phénomène que vous avez évoqué qui est l'autocensure. Tout simplement. C'est-à-dire que, et on l'a entendu, alors là, pas ces quelques jours, là, ces quelques jours, nous sommes dans un temps d'hommage national, de communion nationale, de cohésion nationale, et je vois des personnes qui viennent à ces cérémonies, à ces rassemblements, saignent éventuellement même de leurs écharpes tricolores, puisqu'ils représentent le peuple, ou au moins une partie du peuple, qui leur a pu leur confier des responsabilités électives. Je n'oublie pas que parmi toutes ces personnes, il y en a encore qui continuent, à minima, de nous dire « oui, mais ». Oui, mais. Et ce qui a radicalement changé, là, pour le coup, dans notre pays, c'est, je ne sais pas si c'est la généralisation, en tout cas, c'est la banalisation du « oui, mais ». Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps, il n'y a pas un événement où des personnes qui viennent dans les micros, devant les médias, nous expliquer, la main sur le cœur, la liberté d'expression, les valeurs essentielles de la démocratie, le socle de la République, mais attention à ne pas heurter les gens, attention à ne pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité, ils veulent une liberté d'expression qui corresponde à leur périmétrage à eux. C'est-à-dire, ça, c'est pas la liberté d'expression, c'est leur conception de la liberté, ça s'entend. Et si eux ne veulent pas dire, blasphémer, caricaturer, écrire, dénoncer, libre à eux, mais qu'ils ne viennent pas expliquer à ceux qui, eux, continuent de se servir de cette liberté d'expression, qu'ils n'ont pas à le faire. Et quand je dis dire, je parle évidemment qu'ils menacent des personnes qui, etc., etc. Je vais vous donner un seul exemple. Hein. Elle est députée de Paris, de votre parti, les écologistes. Elle a participé, comme il se doit, à tous les hommages, à tous les rassemblements, etc. N'empêche que quand on l'a interrogée sur l'arrestation, l'embastillement d'un de nos compatriotes aujourd'hui en Algérie, Boualem Sansal, il est notre compatriote, il est emprisonné par une dictature corrompue qui est militaro-islamiste, on va se le dire très tranquillement, je ne sais pas s'ils sont plus militaires qu'islamistes ou plus islamistes que militaires, mais c'est un petit peu la même chose, quand même très très appuyé, soutenu hein, par les islamistes en Algérie. La première chose qu'elle a trouvé à nous dire juste après, on dit il faut libérer Boualem Sansal, mais c'est quand même quelqu'un qui a des idées d'extrême droite. Quand un intellectuel, notre compatriote qui plus est embastillé, enfermé quelque part dans le monde, que 10 ans après Charlie, il y a encore aujourd'hui des personnes qui se proclament en responsabilité, qui s'affichent comme étant en responsabilité, qui viennent nous commencer un discours par nous dire « oui, mais », c'est absolument inacceptable. Et quand on m'explique que la liberté d'expression va mieux dans notre pays, je crois que s'il y a des raisons d'espérer dans ce sondage, effectivement, je l'ai lu, je l'ai vu, j'en ai même été pour certains points agréablement surpris, il n'en demeure pas moins qu'entre les réponses qui sont spontanées, le « oui mais », ça c'est facile, et les explications qui sont données ensuite, on sent quand même qu'il y a un repérimétrage qui est en train de s'imposer partout dans le champ public et dans le champ social, qui n'était pas à ce point aussi important, et on en voit les conséquences. Hein. Les paroles libérées islamistes ne sont jamais aussi importantes numériquement. On l'a vu encore avec ces espèces de zozos qui se permettent de menacer, d'appeler au meurtre sur le territoire national.
Des influenceurs.
Qu'on appelle des influenceurs, etc., etc. On voit qu'il y a. Oui, ce sont des agents, soyons clairs. On voit qu'il y a tout ce mode de fonctionnement-là qui est à l'œuvre, qui est en fonctionnement. Eh bien, moi, je suis désolé, mais pour moi, ça, ce n'est pas aujourd'hui la garantie de la liberté d'expression quand il n'y a pas sur des éléments qui sont, sur lesquels il ne devrait pas y avoir débat. Sur lesquels il ne devrait pas y avoir débat, quand dès que des personnes prennent la parole pour dire, quand on leur pose leur avis, que les premières choses qu'ils ont à nous dire, c'est « oui, mais ». Parce que quand on dit « oui, mais », le « oui » ne compte pas. Le « oui » ne compte pas, la seule chose qui compte, c'est le « mais ». Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où de plus en plus la parole politique, notamment dans les extrêmes, et pas que, mais notamment dans les deux côtés extrêmes de notre parole publique, est en permanence en train d'axer sur le « mais ». Et ça, moi, j'y vois une véritable inquiétude sur le projet même de société.
Alors, Gabriel Robin, donc, je repose la question qui a deux parties, mais vous y avez répondu, Guillaume Dulot. Donc, 10 ans après les attentats de janvier 2015, comment a évolué la situation en France, notamment face à la pression et à l'entrisme des islamistes, et où en est la liberté d'expression qu'évoquait à l'instant Guillaume Agulot?
Bah, je commençais par la liberté d'expression pour rebondir immédiatement sur ce qu'il disait. Bah, déjà, il faut savoir quand même que le droit français n'est pas très favorable à la liberté d'expression et d'opinion. C'est un droit français plutôt liberticide, notamment quand on compare avec le droit anglo-saxon en la matière. La loi de 1884 sur la presse qui régit... 1881, pardon. Je fais une petite erreur. Qui régit le domaine de la liberté d'expression et d'opinion publique, c'est-à-dire le domaine où on peut l'exercer, est assez restrictive. Et de plus en plus interprétée de manière restrictive. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des procédures bâillon et des procédures collectives pour empêcher les gens de dire exactement ce qu'ils souhaitent. Quand on est favorable à la liberté d'expression maximale, pas totale, parce que totale, c'est pas bon, comme c'est mon cas, par exemple, il y a 2 jours, puisqu'on va en parler, ça me permet de... On va en parler après, Jean-Marie Le Pen est décédé, il y a eu une manifestation improvisée, place de la Bastille, je crois,
place de la République.
Avec des militants de divers partis de gauche et voilà, une certaine jeunesse parisienne, on va dire. Moi, je ne suis pas contre le fait que ces gens-là puissent manifester leur joie lors d'un décès, quand bien même cela serait particulièrement indécent.
Et la morale.
Mais si vous voulez, la morale, c'est pas le droit.
Oui. Voilà.
Donc les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. En revanche, dans cette manifestation, il y a eu aussi des appels à assassiner des gens, etc. Là, on sort du cadre justement de la liberté d'expression. Et ça va me permettre d'en venir à l'affaire Charlie Hebdo et aux islamistes. J'ai souvent discuté, j'avais interrogé dans un magazine un islamiste qui a été récemment condamné pour une affaire de liberté d'expression qui s'appelle Elias Dimzalen, qui avait organisé la manifestation contre l'islamophobie. Je le connais assez bien, c'est un type intelligent d'ailleurs, même si on est très très différents. Pas du tout d'accord. C'est un type qui est fondamentalement de droite, d'ailleurs, en fait, quand on discutait avec lui, et qui se moque énormément des gens de gauche qui le soutiennent en privé. C'est assez amusant. Et ça le ferait beaucoup rire que je le dise à l'antenne. Il a été condamné pour une mauvaise expression. C'est-à-dire que je pense pas qu'il le croyait, mais il a justifié, quand même, du moins le tribunal l'a estimé, des attentats. Ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez quand même, et ce que disait M. Agulon est vrai, une forme de géométrie variable. C'est-à-dire que pour certains qui se revendiquent libertaires, mais qui au fond sont totalitaires, qui aimeraient limiter en fait les idées qui ne leur plaisent pas dans l'espace public, et qui se retrouvent d'ailleurs avec l'effet inverse, parce qu'à force d'avoir mis cette espèce de chape de plomb, cette autocorrection politique, on se retrouve avec une parole totalement débridée, qui amène aussi à beaucoup de fake, à beaucoup de conspirationnisme. Aux États-Unis, d'ailleurs, ça a été le cas. Avec cette espèce de wokisme étouffant, ça a créé Trump, ça a créé Musk, etc. Et les mecs sont complètement en roue libre, parce que pendant des années, on a dit à Hollywood, etc., il faut penser ci, il faut dire ça, il faut truc. Et donc, ça rend les gens fous. Et ça produit des effets totalement inverses. Pour Charlie Hebdo, qui va, c'est vrai, assez loin, c'est une question de goût. Moi, il y a des trucs, ça me plaît pas dans Charlie Hebdo, je trouve pas ça forcément remarquable, je vais pas dire « Ah, c'est formidable », etc. Moi, il y a des trucs, ça me fait beaucoup rire aussi, parce que j'ai quand même un humour noir. Je comprends qu'il y ait une sensibilité, que ça puisse déplaire à un certain nombre de gens, y compris aux gens, par exemple, religieux. La différence, c'est qu'un catholique religieux, Aujourd'hui, en France, il ne va pas aimer Charlie Hebdo, il va peut-être le dire, c'est une bande de connards, etc. Charme, c'était un enculé, excusez-moi, pardonnez-moi le langage, mais c'est le langage qu'emploie souvent Charlie Hebdo. Mais il ne va pas poser une bombe, ni décapiter toute une rédaction. Malheureusement,
il y a quand même eu des bombes dans des cinémas en France pour la projection de La Dernière Tentation du Christ avec des morts.
En 88. Notamment.
Oui, c'était en 88.
Tout à fait.
Aujourd'hui, je parle moi d'aujourd'hui. Après, il peut très bien avoir un pratiquant catholique, type loup solitaire, ou même un mec
déséquilibré,
un communiste, un anarchiste, etc. Il y a de la violence politique et religieuse, il y en aura toujours. De la violence aussi autosaisie, des gens qui s'autosaisissent, comme c'était le cas, par exemple, ce qu'on a vu la Nouvelle-Orléans, c'est pas un mec dans un réseau islamiste, c'est un type qui s'est autoproclamé islamiste parce qu'en fait il voulait quand même tuer sa famille avant. Donc si vous voulez, la limite parfois entre le déséquilibre et l'attentat terroriste, de toute façon je pense que pour commettre un attentat terroriste, il faut être un petit peu déséquilibré déjà au départ. En tous les cas, sur la question de Charlie Hebdo, effectivement, on a entendu une petite musique venu en partie de la gauche, qui pourtant, Charlie Hebdo me semble être plutôt un magazine de gauche au départ, contrairement à Harakiri d'ailleurs, où il y avait des petits doutes, c'est certain.
Harakiri c'était plus anarchiste, et après, on met le professeur Choron où on veut.
Le regretté Christophe Forcari, qui est décédé il y a 2 ans, qui était un journaliste de Libération, et le dernier droitard de Libé, quoi. C'était le dernier des Mohicans, le seul, quoi. Le seul et unique. Il faut toujours, en fait, c'est comme au Figaro, il y a un gaucho, et chez Libé, il y avait un droitard. Avait fait un papier, justement, sur Charlie Hebdo, où il expliquait qu'au sein même de sa rédaction, il y avait des gens, alors que ce sont quand même des journalistes aussi, qui disaient, ouais, mais tu comprends, ils ont quand même beaucoup provoqué. Il y a eu beaucoup de provocations.
C'est le 8 mai.
Alors, c'est du registre de la liberté d'expression, ils ont le droit de le penser, ils ont le droit de le dire. Ouais. Mais, sur le plan moral, je trouve ça extrêmement problématique. Parce que rien ne saurait justifier l'assassinat de sang-froid pour de simples desseins. C'est quelque chose, je veux dire, on est en France ici, on n'est pas dans la Syrie de l'HTS, on n'est pas à Kaboul, on n'est pas au Pakistan, et nous n'avons pas à nous adapter à des standards qui ne sont pas les nôtres et qui sont inacceptables. Nous n'avons pas à nous adapter.
Alors, une question que je voulais poser. Il y a 10 ans, les jours qui ont suivi, on a vu, je reprends votre terme, de fleurir les panneaux, je suis Charlie, les professions de foi, je suis Charlie. Il y avait des millions de gens dans les rues. Est-ce qu'on est autant Charlie aujourd'hui qu'il y a 10 ans, Laura Verlac? Et est-ce que vous êtes Charlie vous-même?
Bah oui, moi je suis Charlie. Après, bon, là, moi, je représente le parti que je représente, les écologistes. Et nous, voilà, on a toujours défendu, bien entendu, le droit à la liberté d'expression et au blasphème. Et enfin, voilà, pour moi, enfin, je suis assez d'accord. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait. Il est inconcevable de tuer pour...
Juste une précision, le blasphème ne peut pas être un droit, puisque le blasphème n'est pas une notion de droit français.
C'est une liberté. Une droit, bien sûr. Mm-hmm.
Mais est-ce que vous pensez... Alors, ça c'est pour votre parti. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a ce sondage qui vient de sortir, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment autant Charlie qu'on pouvait l'être il y a 10 ans, juste après les attentats?
Ben oui, je pense qu'on peut tout à fait l'être encore, et je pense que les attaques...
Les gens le sont? Vous pensez que les gens le sont?
Je ne suis pas dans la tête des gens.
Ah ben, on peut avoir quand même une petite idée sur la question. On peut avoir une petite idée,
mais après, je voulais rebondir quand même sur quelque chose que vous avez dit, et c'est vrai que, bien sûr, il y a quand même des dangers qui se présentent, même jusqu'ici... à Toulouse. Alors, bien entendu, et heureusement, il n'y a pas eu du tout d'utilisation de la violence, mais on a quand même eu, je ne sais pas si vous avez entendu, pour le spectacle de la machine, des réticences qui sont sorties de la part de la communauté catholique.
Mais
voilà,
c'est la liberté d'expression,
sur la tenue d'un spectacle, je veux dire, c'est quand même important que voilà, tout puisse se tenir.
On a eu la mairie de Toulouse qui refuse la liberté d'expression de l'acte commis. Là, non, on a le droit de dire d'accord. Ce spectacle, il nous plaît pas, quoi.
Après, ça dépend jusqu'où va en termes de pression et tout ça. Ah, voilà. Donc,
c'est du lobbying, c'est pas du terrorisme. Mm-hmm. Ça, c'est de la politique.
Oui, parce que entre prendre la parole dans un journal et ouais. assassiner la rédaction d'un journal.
Je pense que c'est pas la même chose.
Bien sûr, c'est pour ça que je disais que heureusement, il n'a pas, pas été fait usage de violence. On a aussi la mairie de Toulouse qui refuse là récemment d'accueillir une exposition de Médecins sans frontières sur Gaza, qui retrace une année de guerre à Gaza. Donc, enfin, voilà, il y a aussi des choses qui se passent et bien entendu, on souhaite pas qu'il soit fait usage. De violence et voilà, enfin moi je reste sur cette position là et oui j'espère que les gens sont encore Charlie.
Alors vous Guillaume Agulot qui êtes Charlie, je le sais, est-ce que vous pensez qu'en France on est autant Charlie qu'il y a 10 ans?
Clairement non, très très clairement non. On va quand même aller un peu plus loin que cette réponse un peu binaire, un peu basique, parce qu'il y a 10 ans on était dans une réponse d'émotion.
Oui bien sûr.
Voilà, c'est un choc, c'est un trauma, hein, vous l'avez...
Le monde entier était Charlie. Oui,
effectivement, etc. Et là, 10 ans sont passés et j'allais dire, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Alors oui, moi je, encore une fois, genre, je ne vais pas non plus accabler les verts, vous allez voir, j'en ai aussi par rapport à LFI. Mais effectivement, Marine Tondelier, je l'ai entendu dire qu'elle était Charlie, elle était présente aux commémorations, c'est très très bien, comme elle était présente pour dire, tu es le bienvenu ici, lorsqu'elle a fait venir Médine aux journées d'été du Parti des écologistes, Médine, hein, dont laïque, je crucifie les laïcars comme au Golgotha, qui appelle dans ses chansons hein, à les crucifier.
Une référence chrétienne, là, pour le coup.
Une référence très, très chrétienne. Il sait pourquoi, d'ailleurs. Il l'a,
non,
il
et, a, et islamique aussi, parce que ça existe.
Bien sûr. Il évoque également la lapidation, bon, etc., etc. Donc, bon... pour avoir un petit peu côtoyé quelques dessinateurs de Charlie dans mes vertes années, je pense que beaucoup de réactions outrées, indignées dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, ça les aurait beaucoup fait marrer à Charlie de se dire, putain, 10 ans après, ils en sont encore à parler de nous. On est quand même très très fort en matière de com. Je pense que ça nous aurait peut-être valu aussi quelques dessins bien sentis.
Ils auraient peut-être dit, on ne pensait pas être autant aimés.
Voilà, j'ai publié sur les réseaux le 7 en disant que quand je voyais toutes ces personnes qui, d'un seul coup, 10 ans après, se souvenaient qu'il y a 10 ans, ils avaient été Charlie, étaient les premiers à venir le proclamer aujourd'hui, que ça pouvait aussi, qu'on pouvait rebaptiser le 7 janvier comme étant la journée internationale du bal des faux culs. Et l'ancienne compagne de Sharp, que je connais par ailleurs, m'a répondu en me disant qu'il aurait adoré faire un dessin là-dessus, sur ces questions-là, parce que voilà, effectivement, aujourd'hui, c'est un marqueur, quoi. Si on ose dire qu'on n'est pas Charlie, là, c'est la cata. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, je suis Charlie? Je suis franchement pas convaincu que ceux qui sont Charlie, encore aujourd'hui, hein, parce que le journal continue, est-ce qu'ils se retrouvent dans tous ceux qui nous disent aujourd'hui « je suis Charlie » ? Et peut-être à eux qu'il faudrait poser cette question et on serait, je pense, pas déçu du résultat des réponses.
Je reviens sur ce que disait Gabriel Robin tout à l'heure, je vais vous donner la parole, Gabriel, quand il disait que Charlie est un journal, et c'est vrai, notamment le Charlie relancé à partir de 92 par Philippe Ball, était un journal de gauche,
bien
assumé,
sûr.
Ancré à gauche,
bien sûr.
Assumé.
Oui, c'est quand même difficile de dire le contraire.
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude aujourd'hui de la gauche, en général, par rapport à ce journal?
Alors moi, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui.
Je vois parfois ce que dit Riss. Ouais. Il a l'air assez inquiet, quand même.
Moi je ne sais pas du tout ce que c'est la gauche, en général, très sincèrement.
Ouais.
Je sais qu'il y a des orientations politiques qui se réclament de gauche. J'en suis, d'ailleurs. Sauf que moi, quand je dis que je suis de gauche, je dis toujours que je suis de gauche universaliste et laïque. Ça me paraissait être une évidence, c'est-à-dire que pour moi, c'était des mots qui étaient complètement inutiles il y a 10, 15, 20 ans, et qui sont aujourd'hui absolument indispensables, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se réclament tout autant de gauche et qui, pour qui, les mots d'universalisme et de laïcité, dans ce que c'est, pas dans leur acception, dans leur considération à eux, mais dans ce que c'est, pour eux, c'est devenu quasiment des gros mots. Donc je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui être de gauche. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se réclament de gauche et qui n'ont pas du tout, tout quoi qu'ils en disent, et on va sortir là de ces quelques jours de communion nationale, encore une fois, qui ne sont pas du tout sur cette volonté de laisser Charlie continuer à publier, à travailler comme il se doit. Enfin, je veux dire... Charlie, c'est encore une rédaction, 10 ans après les faits, où ils vivent tous sous protection policière H24. L'adresse est tenue secrète, et en fait, c'est la deuxième adresse, parce que l'adresse était tellement secrète que un policier radicalisé...
a vendu la mèche.
A vendu la mèche, et il a fallu les redéménager en urgence, parce que c'est... Oui, donc on en est là, aujourd'hui. On en est là.
Je sais qu'un Philibald a chez lui une cellule de
sécurité.
Bien sûr,
ils ont tous, si ils ont tous chez eux, ils ont tous chez eux une pièce... Ils ont absolument tous chez eux une pièce, une panic room. Bon, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre au quotidien.
Oui, mais imaginez ce qu'elle en vit tout de même.
Voilà, c'est... Et ça, ben, je suis désolé, mais effectivement, Charlie est de gauche, et je suis vraiment pas convaincu que 4 ans après l'attaque contre Charlie, les attentats terroristes islamistes, toutes les forces politiques dites de gauche qui ont participé à la soi-disant marche contre l'islamophobie, je suis vraiment pas convaincu qu'elles aient rendu un grand service à Charlie. Et moi, ce que je conseille à toutes ces personnes, hein, aujourd'hui encore, qui viennent nous parler de ça, c'est de relire justement le dernier texte de Charb, cette lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. C'est un texte qui est extraordinaire, qui est d'une simplicité, j'allais dire biblique, qui est d'une simplicité hallucinante, qui est fait un bonheur fou, justement. Et puisque j'en suis à des petits conseils lecture, 10 ans après, je vous conseille aussi de lire, je l'ai dévoré hier soir, le nouveau livre de Richard Malka, issu de son...
L'avocat de
Charlie Hebdo, qui a passé une nuit au musée au Panthéon et qui a dialogué avec Voltaire. Et il y a un dialogue à 250 ans d'écart sur, justement, l'intolérance religieuse et l'imposition de la norme religieuse rigoriste dans les sociétés. Il y a 250 ans aujourd'hui, c'est d'une fulgurance et d'une modernité et d'une beauté absolue.
Alors vous, Gabriel Robin, on est Charlie en France, vous croyez aujourd'hui majoritairement?
Alors déjà, est-ce que je le suis, moi?
Alors c'est une question, je précise qu'on a tout à fait le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo, bien alors, entendu.
Moi, je n'ai jamais été à l'aise avec l'expression, parce que je ne suis pas hypocrite, justement. Je ne suis pas un mec qui va prétendre, je n'aimais pas ça d'ailleurs, justement, de ce bal des faux culs qu'a dénoncé à plusieurs reprises Monsieur Agulon juste avant, et certains auteurs de Charlie Hebdo d'ailleurs qui disaient, regardez, attends, le mec il dit qu'il est Charlie, en fait il nous met des fusils dans le dos.
Des cibles dans le dos.
Voilà, la différence, c'est que j'ai jamais dit que j'étais Charlie, mais je leur ai jamais foutu des fusils dans le dos. Donc je suis assez tranquille avec ma conscience. J'ai été Charlie le après l'attentat, évidemment, parce que c'était horrible. En revanche, est-ce que j'approuve le magazine, est-ce que je l'apprécie? Quelques dessins parfois me font énormément rire, mais dans l'ensemble, non, c'est pas du tout ma tendance politique, donc je vais pas dire que je suis Charlie. Je suis contre le terrorisme islamiste, je suis contre le fait qu'on puisse assassiner des journalistes en France, je suis pour défendre leur droit à la liberté d'expression. Donc je suis peut-être plus Charlie que ceux qui parfois prétendent être Charlie.
C'est simplement ça, être Charlie.
Voilà. En revanche, est-ce que tous les Français le sont? Moi, je pense que beaucoup de Français de la rue, du quotidien, le sont, mais que dans le personnel politique et médiatique, il y a des pudeurs de gazelle, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, à être véritablement Charlie ou à les soutenir authentiquement. C'est-à-dire que, oui, c'est quand même difficile de cautionner un attentat aussi barbare, mais dans le fond, on sent qu'ils sont extrêmement gênés parce que la réalité est la suivante. Une partie de la clientèle électorale de ces gens-là n'est pas du tout Charlie. Et même anti-Charlie, en réalité. Quand Delogu va dans certains quartiers, je sais exactement ce qu'il peut entendre, à mon avis, à propos de Charlie Hebdo, d'une part de ses électeurs. Et donc, il ne peut pas être formellement dire... C'est-à-dire que quand on va les mettre face au cas d'espèce, leur montrer, tiens, regarde, c'est le dessin, par exemple, de là, c'est Mahomet, nu, bon. C'est difficile à assumer, même moi, je trouve pas ça forcément très, très de bon goût, ou même très pertinent. En revanche, ça le devient par les réactions que ça suscite. C'est-à-dire que, dans le fond, moi, ça ne me plaît pas, ce genre de dessin. Mais les réactions sont si révélatrices que le dessin en devient pertinent. C'est-à-dire qu'il renvoie la connerie des autres en miroir. Moi-même, je suis chrétien, si vous voulez. Il m'arrive même d'aller le dimanche à l'église. Ça ne me fait rien de voir une caricature de Jésus. quand Gottlieb en faisait, Jésus II, le retour avec tous les prophètes, tous les dieux, ça me fait beaucoup rire. Je pense que Dieu est au-dessus de ça, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce recul. Et il y a une partie, malheureusement, des musulmans qui vivent en France, qui sont restés, qui sont plus archaïques que leurs co-religionnaires du 8e et du 9e siècle. Parce que c'est ça la réalité. Parce qu'en fait, c'est même plus religieux, c'est de l'ordre de la superstition, pour certains, pour échanger, dialoguer parfois avec certains. Ce sont des superstitieux moyenâgeux, et donc en fait on applique à la règle la lettre, et donc ils se sont moqués du prophète, on les tue. C'est comme ça que ça résonne. C'est ce qu'il faut comprendre.
Alors je voulais terminer, poser une question, parce qu'il me semble qu'on oublie trop souvent, on parle beaucoup évidemment des attentats à Charlie Hebdo, et il faut. Mais les attentats de janvier 2015 ont visé également une policière, Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, et des juifs à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Aujourd'hui, les policiers, les commissariats sont souvent attaqués. On accuse la police de tuer. Les actes et les agressions antisémites prolifèrent en France. Est-ce qu'on n'a pas trop longtemps ignoré ce phénomène qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes? On en parle malheureusement là aussi souvent dans cette émission. Je rappelle que le coup d'envoi de tout ça a lieu dans notre ville. C'était en mars 2012, Mohamed Merah. Les attentats de janvier 2015 finalement ont été le prolongement de ces premières attaques. Alors est-ce que ce fait est trop occulté selon vous, Laura Verlac?
Trop occulté, je ne sais pas, mais il est effectivement effarant, il est vraiment inquiétant. La prolifération de l'antisémitisme, c'est un poison dans notre pays, mais tout comme la prolifération des idées racistes, xénophobes, islamophobes, on le regrette. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur, bien entendu, donner des moyens pour la protection des personnes, donner des moyens pour la protection des forces de l'ordre remettre un climat un peu plus apaisé dans notre pays. Je pense que ça a été évoqué par vous deux, je pense. Le climat qui existe aussi sur les réseaux sociaux n'aide pas. C'est important de mettre en place des régulations pour que il n'y a pas des débats qui s'enflamment sur les réseaux sociaux qu'ensuite on retrouve de façon très violente dans la rue. C'est certainement des lieux communs pour vous, mais en même temps, ça me semble l'essentiel. Ouais.
Mais bon, aujourd'hui on dit que les actes antisémites, ça a d'un seul coup explosé après le 7 octobre 2023. Non, ça a commencé bien avant, Guillaume Agulot.
Oui, ça a commencé bien avant.
Et déjà, c'était présent, là.
Bien sûr. Ils n'ont jamais réellement disparu. Ils n'ont pas toujours pris les formes que l'on a pu connaître. Mais effectivement, le tournant, c'est, là où ça commence véritablement à monter dans notre pays, c'est à partir du milieu des années 1990. C'est-à-dire au milieu de ce qu'on appelle la décennie sanglante en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, lorsque cette idéologie mortifère, hein, l'islamisme qui prolifère à ce moment-là avec les réseaux, avec les cellules, commence à arriver...
À s'exporter chez nous.
À s'exporter. Je rappelle quand même que Khaled Kelkal, qui est le premier, on disait à l'époque, le solitaire, on est en 1995, parmi les cibles qu'il vise, les RER, etc., parmi les cibles qu'il vise, il y a également une synagogue.
Un peu plus loin, parce qu'en fait, c'est l'Iran, Mollah, qui a réinstauré cette rhétorique.
La rhétorique, oui, les actes, pas encore.
En France, en tout cas.
Des Rosiers, c'était quand même un peu lié au Hezbollah, je crois.
Oui, c'est le Hezbollah, effectivement. Oui, tout à fait. On avait eu. Donc, on a toutes ces choses-là.
Là, c'était extérieur à la France.
On parle vraiment de ce qui s'est implanté chez nous.
C'est endogène.
À fonctionner, à s'implanter, et effectivement, Mohamed Merah lui-même n'est pas un début. Mohamed Merah arrive, on l'oublie trop, mais depuis 2008 à Toulouse, il y avait un moment que la communauté juive alertait, un peu seule, très très seule à l'époque, sur l'explosion des agressions que ses membres pouvaient subir, etc. La première protection policière permanente depuis la synagogue de la rue Palapra, c'est 2008. Depuis 2008, la rue Palapra est protégée systématiquement. Depuis 2012, on a un établissement scolaire, enfin, je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure de ça, on a un établissement scolaire toulousain qui est protégé tous les jours par un véhicule blindé. Ça veut dire qu'on a des élèves qui ne connaissent pas un autre environnement que celui protégé par des hommes en armes.
Alors, dans l'école, vous savez qu'il y a eu...
Il faut être clair là-dessus.
À l'école de mon fils, il y a un type qui est venu. C'était il y a un an et demi. Mon fils est dans une école privée catholique. Et il y a un monsieur enfin un monsieur, un voyou quoi, qui est venu, qui a fait des trucs comme ça. C'était dans une période, qui disait, parce qu'il y a une église en fait, c'est au niveau du palais de justice, et il disait comme ça, oui, des chrétiens et tout. Je peux pas vous voir et tout ça, il hurlait devant l'école et tout. Donc ça, c'est des petits actes du quotidien. Mmh. C'est sans conséquence, il s'est rien passé.
Oui, mais c'est ce qui installe la peur.
Mais évidemment, dans un pays bien géré, un mec comme ça, en fait, il finit au trou pour quelques mois.
Un moment.
Hein, voire quelques années.
Et ce que vous dites ramène toujours au même point.
Parce que c'est angoissant en tant que père. Bien sûr. Que quand vous reparlez de ça, j'ai repensé.
Bien sûr. Ce qui est visé aujourd'hui dans notre pays, et à tous les niveaux par des actes violents, des assassinats de professeurs ou des pressions du quotidien, c'est l'école.
L'école, bien sûr.
C'est l'école qui est. Et l'école, regardez, la première des attaques islamistes contre l'école publique, ça a été quoi? Ça n'a pas été de vouloir imposer le voile. Ça a été d'en chasser les juifs. Ça a été ça, la première stratégie islamiste qui a visé l'école de la République, ça a été de chasser les élèves de confession juive. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, la proportion des élèves de confession juive qui fréquentent l'école publique, elle est epsilonesque. Ils ont réussi. Ils vont dans des écoles privées, confessionnelles juives, quand bien même elles seraient protégées. Je crois que ça aussi, on n'a pas mesuré, parce qu'on ne peut pas dissocier l'islamisme, pas l'islam, hein, attention. Hein,
mais on a bien prononcé les mots, on a l'islamisme.
On le sait tous, mais il y a des personnes qui font semblant de ne pas entendre. Il faut absolument pas dissocier l'islamisme de l'antisémitisme. Les deux sont absolument consubstantiels. Les deux ne fonctionnent pas séparément ou différemment l'un de l'autre.
Bon, Gabriel Robin, pour terminer.
Sachant que c'est une religion qui est purement sémite, là, encore une fois, j'ai un problème de sémantique, parce que l'islam, ça naît quand même dans un contexte judéo-chrétien nazoréen. Et il y a beaucoup d'éléments quand même du judaïsme et du christianisme dans l'islam. Donc moi je dirais plutôt que c'est un anti-judaïsme religieux, qui d'ailleurs est lié à l'eschatologie juive et à l'eschatologie islamique, comme à l'eschatologie chrétienne en fait, parce que l'eschatologie chrétienne est plus proche de l'eschatologie islamique qu'elle ne l'est de l'eschatologie juive. Et un antisionisme politique qui se renforce aussi sur tout un tas de préjugés d'ordre antisémite qui ressembleraient à ceux qu'il y avait aussi en Europe ou qu'il y a dans le monde entier, en fait. C'est-à-dire, dans les terres d'islam traditionnelles, il y a les mêmes clichés sur les juifs que ceux que nous avions en France. C'est-à-dire, les juifs gagnent plus d'argent, les juifs ceci, les juifs cela, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et effectivement, dans le regain d'actes anti-juifs commis en France ces dernières années, tout ce discours appuyé sur le tiers-mondisme ou une mauvaise lecture de ce qu'est le sionisme historique, parce que là, ça devrait faire l'objet d'une émission de plusieurs heures.
On va pas rentrer là-dedans.
Parce qu'il y a un sionisme, politique au départ, voire même athée, chez Herzl. Et il y a tout un sionisme religieux aussi. Et les deux, en fait, sont consubstantiels l'un de l'autre, et c'est très difficile de distinguer qui est qui fait quoi, surtout aujourd'hui, puisque Israël devient un État religieux. Tout ça, en fait, a renforcé, effectivement, l'antijudaïsme en Occident comme en Orient. Et de nos jours, même si on n'atteint pas les niveaux qu'il y a pu avoir fin du XIXe siècle, et évidemment dans l'entre-deux-guerres, j'ai l'impression quand même que ça se renforce, d'autant plus que historiquement, en fait, le peuple juif était vu comme faible, puisqu'il n'avait pas d'État, oui, etc.
Ce qui n'est plus le cas.
Aujourd'hui, il est passé, il occupe un autre rôle dans l'inconscient, l'imaginaire collectif. Là, je vais un peu plus loin, quoi. Mais, il occupe le rôle du bourreau ou du militaire, du colon, etc., de la force. Et ça a changé sa perception. Et donc c'est pour ça qu'il y a, un antisémitisme d'une nature un petit peu différente de celui qu'on a connu, puisqu'il s'appuie sur un discours politique et géopolitique, géostratégique, avec une forme d'importation du conflit en France, des discours extrêmement virulents aussi, qui ne font pas de distinguo entre un juif aujourd'hui est un israélien dans l'esprit d'un nombre français. Et donc ça crée, oui, effectivement, ça bon, de toute façon, c'est un ingrédient parmi d'autres du grand bordel français, quoi, multiculturel. Quoi.
Voilà. On va rester là pour ce premier sujet, même si je sais que vous avez eu encore beaucoup de choses à dire dessus, notamment sur ce qui se passe à l'école. On fera sans doute une émission là-dessus prochainement. Après la pause musicale habituelle, nous allons nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et nous sommes de retour à l'antenne. Je suis toujours en compagnie de Laura Verla, Guillaume Agulot et Gabriel Robin, à qui je propose de revenir sur l'autre événement de la semaine. Ironie de l'histoire pour les uns, dernier pied de nez d'un provocateur pour les autres, Jean-Marie Le Pen est décédé à l'âge de 96 ans, le 7 janvier, jour du 10e anniversaire des attentats islamistes à la rédaction de Charlie Hebdo, la mort de celui dont les prises de position et déclarations ont longtemps fait la une des journaux, et souvent celle de Charlie Hebdo, de l'homme qui a clivé durant près de trois décennies la scène politique nationale, a fait l'objet de réactions contrastées comme on pouvait s'y attendre, et elle a été fêtée à grand bruit, place de la République à Paris et même en province, par des sympathisants et militants d'extrême gauche. Pour votre part, que retenez-vous de l'homme et du politique Le Pen, et que pensez-vous des réactions qu'a suscité l'annonce de sa mort? On va commencer avec Guillaume Agulot, dont je crois savoir que Jean-Marie Le Pen n'était pas tout à fait la tasse de thé.
Vous savez bien. Déjà, je voudrais commencer, puisqu'on a parlé de Charlie Hebdo et des dessins, par un dessin justement de Urps, qui est paru à cette occasion-là, qu'il a rédigé dans les heures suivant la venue, et qui disait donc mort de Jean-Marie Le Pen 10 ans après Charlie Hebdo, et la personne qui apprend ça et qui dit ça va loin quand même l'hommage à Charlie. Ça c'est quelque chose qui, j'avoue, m'a fait rire, m'a fait sourire, parce qu'on est effectivement dans cet esprit de la caricature. Qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens que c'est une personne qui a imposé dans le débat politique et sociétal français des thématiques que l'on croyait complètement oubliées, complètement révolues. Je rappelle quand même que c'est une personne qui a été condamnée à de très nombreuses reprises pour ses propos, hein, puisqu'effectivement, la liberté d'expression a les limites qui se règlent souvent à la 17e chambre de la... du palais de justice de Paris, et pour des propos haineux, racistes, antisémites, homophobes, on en a le panel. Hein, on a
on va rappeler du rapport crématoire, les chambres à gaz font le détail de l'histoire.
Trois fois, les chambres à gaz sont un point de détail. Trois fois, j'allais dire, là, on était un petit peu quand même sur une certaine logique. Ce qu'il a imposé, c'est la première fois où dans notre fonctionnement, dans notre mode de société, la parole s'est complètement lâchée. Il a dit des choses publiquement, à plusieurs reprises, de manière répétée. Il a dit des choses qu'avant on n'entendait plus. Ça, c'est la première des choses. Et on en voit aujourd'hui les conséquences, hein, très très clairement et de tous les côtés. La deuxième chose, c'est quand même l'héritage, c'est l'institution de ce qui est devenu aujourd'hui un pilier de la vie politique française. Ripolliner, tenter plus de temps en temps, changement de nom, changement de couleur, changement de logo, changement de tout ce qu'on...
Changement de dirigeant.
Changement de dirigeant. Bon, ça reste toujours une dynastie. Hein. Je veux dire, on a...
Il y a toujours le nom Le Pen, évidemment, qui est accolé.
En Corée du Nord, on a une dynastie...
Au Rassemblement national.
Et au Front National, on a une dynastie lepéniste. Bon, c'est des logiques de leur conception démocratique, de mettre en place comme ça de la dynastie. C'est comme ça. Moi, ce que je remarque, c'est que ce parti est devenu aujourd'hui le pivot central, parti qui a été quand même, on va le rappeler, bon d'accord, c'était il y a plus de 50 ans, mais enfin c'est la source même, hein, par un ancien milicien, par un ancien Waffen-SS, par un tortionnaire, parce qu'il n'y a pas que Le Pen d'ailleurs, lui il était probablement, on n'a pas pu le prouver formellement, mais enfin quand même on a retrouvé son poignard du premier REP dans une maison où il y avait eu. Des actes de torture par l'armée française sur la Casbah d'Alger. Donc voilà, ça c'est la brutalisation des choses. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un chercheur qui s'appelle Gilles Kepel qui impose, en analysant tous les discours, qui nous parle de djihadisme d'atmosphère aujourd'hui dans notre pays. Et ce que Le Pen a imposé dans le paysage français, social et sociétal français, c'est un antisémitisme et un racisme d'atmosphère. Très clairement, par ses prises de parole clivantes, et qui ne sont pas que comme Louis Alliot, mais j'attendais pas autre chose de sa part, hein, qui n'était pas juste par goût de la provocation. Louis Alliot l'a dédouané en disant ouais, c'est bon, c'était les mots du tonton gênant à la fin du repas. Non, on était clairement dans une expression tout à fait assumée, tout à fait construite d'une parole haineuse, raciste, antisémite, homophobe. Cette parole-là, elle est plus là. Elle a ses suivants, hein, ses successeurs, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Après, juste un mot quand même sur ce qui s'est passé à Paris,
de la République,
aussi à Toulouse,
à Paris,
etc.,
ou ailleurs,
etc.
Les gens qui se sont réjouis.
Moi, je me suis réjoui. Par rapport à Le Pen, je me suis réjoui. Je me suis pas réjoui au moment de sa mort. Je me suis réjoui au moment où j'ai compris qu'il avait quitté le paysage politique français, parce qu'il n'y était plus, parce que ça date déjà il y a quelques années, parce qu'au moins cette parole-là, on l'avait plus. On avait celle de ses suiveurs, je l'ai déjà dit, mais celle-là, on l'avait plus. Se réjouir de la disparition de quelqu'un, ça n'a pas fait sauter de choix, hein, je vous le rassure.
Plus qu'une victoire.
Mais
ici,
ça
la
m'a
parole
pas fait pleurer. Hein, c'est, enfin, franchement, je sais pas. Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, si on en est à célébrer
la mort d'un vieillard de
96 ans, qui était complètement aux fraises.
C'est qu'ils n'ont plus grand-chose à célébrer.
C'est que, voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, franchement, cette gauche-là, qui n'est vraiment pas la mienne, je pense que vous l'avez bien compris, a vraiment pas grand-chose à célébrer en ce moment, et peut-être qu'il faudrait qu'elle s'interroge sur elle-même.
Moi, je me rappelle la réaction de Jean-Marie Le Pen à la mort de Coluche en 1986. Il avait dit « Je n'ai pas ressenti d'émotion particulière ». Voilà, c'était les mots de Jean-Marie Le Pen.
Je voudrais rebondir immédiatement, parce que je vais compléter ce qu'il dit, parce que sinon je vais oublier, parce que c'est assez complexe. Parce que j'ai entendu quelque chose sur l'Algérie.
Oui, je sais que vous avez des choses à dire
là-dessus. Oui, parce que Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là, qui est un personnage complexe, assez unique dans la vie politique française, qui a traversé trois républiques, la troisième, la quatrième, la cinquième, dont la matrice est la quatrième république. Et pas la cinquième.
Il devient député.
Parce que le troisième, il était très jeune quand même.
C'est pour situer la longueur de sa vie.
À 96 ans, oui.
Quand Jean-Marie Le Pen est allé à la guerre d'Algérie, il était député.
Oui.
C'était le Benjamin de l'Assemblée nationale. Il n'avait que 27 ans. Il s'était rallié à Pierre Poujade au terme, d'ailleurs, d'une jeunesse un petit peu agitée, à corpo de droit, etc. Enfin, c'est quand même c'est un personnage, c'est pas comme les mecs d'aujourd'hui. Hein,
dont parlait son ami Claude Chabrol, le cinéaste.
Dont parlait son ami Claude Chabrol. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là? Il répond à l'appel de la 4ème République, qui était sous gouvernement socialiste, qui décide la bataille d'Alger, dont le ministre de l'Intérieur et de la Justice s'appelait
Mitterrand.
François Mitterrand, qui ont voté une loi d'amnistie pour que, justement, tout ce qui allait être commis en Algérie ne soit pas reproché aux militaires français qui s'étaient engagés. Et il n'était pas le seul. Il s'est engagé avec 50 députés, dont deux socialistes à l'époque. Donc, je veux dire, lui faire ce procès maintenant, alors, et ça, je l'ai vu de beaucoup de socialistes, là, regardez ce qu'il a fait en Algérie et tout, alors que leur homme fort, François Mitterrand, était le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Bon, il y a aussi le mentor de Jean-Marie Le Pen qui avait appelé à voter pour François Mitterrand contre De Gaulle en 1965, un certain Tixier-Vinancourt et les comités Tixier. Aujourd'hui, on fait de Jean-Marie Le Pen un nazi, c'est pas le cas. C'est une forme d'extrême droite française.
Pour moi, c'est l'extrême droite qui vient de l'OAS.
Classique. Alors, en partie. C'est celle de
l'après-guerre.
C'est l'après-guerre. Elle n'est pas forcément vichyste, d'ailleurs, parce que Tixier-Vinancourt, sous la Seconde Guerre mondiale, il fait exactement comme Mitterrand, c'est-à-dire qu'il commence vichyste et après il se retire 42-43. De la même manière que Mitterrand, il y a aussi des résistants. La plupart des leaders de l'OAS sont d'anciens résistants retournés contre gaullistes. Quasiment tous les leaders de l'OAS sont des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc sur cette période, j'ai l'impression qu'il y a soit un manque de culture historique, soit une incapacité à regarder dans le rétroviseur ce qui s'est vraiment passé. L'histoire de France de la 4ème et de la 5ème République, de cette transition, est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Il y a aussi les communistes qui pourraient quand même de temps en temps balayer devant leur porte. Je pense que le ciment de Jean-Marie Le Pen, c'était pas le racisme, etc. C'est pas vrai. Il était colonialiste, il était paternaliste. Il a tout. D'ailleurs,
il était antisémite quand même. Est-ce que vous le contestez
Moi, je pense qu'il était antisémite.
Oui, je pense que ça, on peut pas trop le contester.
Je pense que son ciment, c'était l'anticommunisme, en fait. Et que c'était le ciment de beaucoup de gens à cette époque-là. Et en fait, on ne se rend pas compte. Quand vous aviez l'Indochine, l'Algérie, vous rentriez, vous étiez battu pour la France et vous étiez reçu avec des cailloux. On vous tapait à l'entrée du port de Marseille. Moi, mon grand-père est mort en Algérie. C'est un engagé volontaire aussi. Il était élève officier et para, là-bas. C'est donc un peu le même profil. Il est décédé là-bas. Dans ses lettres, il dit « Je vois ce qu'on dit de moi en France. » Et il était socialiste. Il était au Parti Socialiste. Il n'était même pas de droite. Donc ouais. C'est vachement plus compliqué quand même. Ouais. Excusez-moi. C'est...
Alors, Laura Verlac, qui est la plus jeune d'entre nous, qui n'a pas vu arriver Jean-Marie Le Pen sur la scène politique en 84. Actuel, pas du tout. Bon, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant sa mort? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé hier soir, place de la République, ces gens qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen en dansant, en buvant du champagne?
Non, mais moi, sur Jean-Marie Le Pen, je rejoins plutôt les propos de M. Agulot quand même sur... voilà, sur sur ce qu'il était. Alors moi j'ai trouvé la une qui m'a le plus parlé, finalement elle vient de l'extérieur, c'est celle du New York Times. J'ai trouvé que peut-être par recul sur la situation politique, ils avaient vraiment mieux condensé.
Elle dit que
Jean-Marie Le Pen était un réactionnaire surfant sur des vagues de mécontentement et de xénophobie et agitant le spectre d'un nouveau fascisme en fustigeant les juifs, les arabes, les musulmans et autres immigrés. Je trouve que c'est un résumé plutôt correct. Tout ce qu'il a dit quand même de terrible que vous avez rappelé sur la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, je ne pense pas que ça l'excuse.
Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, cet homme-là, de terrible? Dans les faits, à part des mots.
Il a installé en France une animosité. Il a installé en France pour des décennies encore une. Enfin, je l'espère pas, mais.
Le racisme et l'antisémitisme, l'atmosphère.
Une colère et une animosité envers.
Le nationalisme, ça existera toujours.
Mais
vous en avez dans tous les pays d'Europe.
Mais qui l'a dit? Mais qui l'a dit? Personne ne l'a dit.
C'est lui qui l'a pris. Mais
on
c'est...
a parlé. Non, attendez.
C'est pas lui qui a créé le nationalisme français.
Vous voulez être factuel, on va être factuel. À cette table, personne n'a parlé du fait que Le Pen aurait installé le nationalisme dans ce pays. On a expliqué que Jean-Marie Le Pen avait installé des discours racistes, antisémites, homophobes dans ce pays. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Vous pouvez être d'accord ou pas. Mais la question n'est pas là.
Parce que c'est...
Par contre, même si vous n'êtes pas d'accord et que je comprends que pour vous, la vision que vous avez de la figure de Le Pen n'est pas la même que nous, mais ça s'entend, il n'y a pas de problème, et heureusement.
Je pense que c'est plus complexe, en fait. Je ne suis pas un grand amateur de Le Pen.
On peut le dire de beaucoup d'hommes.
Voilà. Évidemment que c'est complexe, tout le monde est complexe. Sauf que le jour, en septembre, le 5 septembre 1972, à la tribune, la présentation du parti Front National, ça, c'est pas complexe. On les voit, ils sont 7 à la tribune. Ils sont 7 sur la table, enfin 6 assis et Le Pen à la tribune, ils sont 7. Et sur les 7, il y a quand même un milicien, 2 membres du SOL et un Waffen-SS. Ouais. Ça, c'est du formel et c'est du factuel.
Il y a aussi deux compagnons de la Libération, quand même. Non, mais c'est la vérité aussi.
Mais Henri de Kérilis.
Donc c'est particulier, quoi. C'est des milieux particuliers.
Mais évidemment, personne n'a dit que c'était, que c'était simple. Simplement, il n'est pas allé chercher d'autres compagnons de la Libération qui auraient été d'autres orientations politiques. Il a fait son choix.
Il a fait le choix. Qu'est-ce qu'il a fait en 1972, mais là on va faire un peu de politique, d'histoire, parce que c'est intéressant, moi je préfère...
Très vite, parce qu'on arrive
à... En 1972...
On va peut-être la laisser terminer.
Non, mais le congrès du Front National, c'est exactement ce que fait le PS avec le congrès d'Épinay.
Oui, mais on va quand même la laisser terminer.
Non, mais merci.
Oui, parce que j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce qui s'est passé hier soir.
Ma réaction sur ce qui s'est passé hier soir... j'ai pas spécialement de commentaires sur les rassemblements, c'est-à-dire que je suis pas fan personnellement. En plus, il se trouve que j'ai perdu ma grande-tante de 100 ans il y a quelques jours, donc voilà, je sais pas forcément célébrer la mort. C'était pas forcément l'humeur dans laquelle j'étais. Mais en tout cas, surtout ce que je retiens, c'est que pour moi, c'est pas une victoire à célébrer, dans le sens où les ennemis de la République qu'on a pu créer aussi, sur lesquels on a pu surfer grâce au discours de Jean-Marie Le Pen, d'autres personnes, son parti est toujours là, le RN est toujours là, et il fait les scores qu'on connaît. Donc sa mort n'est pas une victoire et ce n'est pas fini.
Oui, on peut se poser la question, ce genre de manifestation, est-ce que c'est pas ça encore qui va faire monter un peu plus le RN et Marine Le Pen dans les sondages?
Ça va pas le faire.
Si ça a un impact, clairement, ça sera un impact contre-productif, évidemment. Mais, pardon, je vais être un peu brutal, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les prises de position publiques de cette extrême gauche, de LFI, allez, disons le mot, tant pis, qu'est-ce qui, aujourd'hui, n'est pas contre-productif? Enfin, je vais reposer la question, c'est déjà y répondre.
C'est pas LFI qui a organisé quand même.
C'est pas LFI qui a...
Il y avait le NPA, il y avait le NPA.
Ouais, le NPA, enfin, cette nébuleuse d'extrême-gauche, ultra-gauche, utilisons les mots qu'on veut. Est-ce que c'était d'ailleurs franchement organisé? Je sais pas. Non, en tout cas, on est sur des personnes...
Pour une bonne partie, c'était spontané.
Ouais.
Ils attendaient ça depuis longtemps.
Mais par contre, le seul que ça aurait fait marrer, c'est Le Pen.
Mais bien sûr.
Oh, certainement.
J'adore. Mais bien sûr.
Très certainement.
Oui, oui, ça, alors là, je suis parfaitement d'accord.
Pas du tout été choqué, mais parce qu'il avait l'habitude de l'activisme.
Oh, oui, je pense qu'il aurait rigolé, il serait même allé les voir.
Ah oui, il
serait même allé les voir.
Mais c'est, bon, après, c'est des... On le disait tout à l'heure, si effectivement cette frange de personnes qui, encore une fois, se réclament de gauche n'a que ça à célébrer, c'est désolant. Hein. C'est franchement désolant.
Parce que c'est pas une véritable victoire politique. Je veux dire, c'est la mort de quelqu'un qui n'avait plus d'activité
depuis
politique
longtemps, oui, depuis des années.
Assez, je crois qu'il s'est quand même jamais tué, quoi. Mais bon,
oui,
il n'avait pas une activité politique
plus,
répétante.
Ouais,
les échos, c'était
vieux,
uniquement dans des émissions
puis
dites
vieux,
satiriques,
voilà,
pseudo-satiriques.
Il était âgé.
Certaines de ses sorties.
Il était même très âgé. Hein, je sais pas,
96 ans. Et il était de 28.
Non, en tout cas, pour en revenir...
C'est fini. Désolé, malheureusement, on fera peut-être une émission. Bon, toujours est-il, les obsèques de Jean-Marie Le Pen se tiendront ce samedi 11 janvier à la Trinité sur mer, dans la plus stricte intimité familiale. C'est la fin de cette...
Nous n'irons pas.
Voilà, et bien ça tombe bien, comme je vous dis. C'est la fin de cette 177e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé et d'avoir débattu sur des sujets qui n'étaient pas simples et qui prêtent facilement à la polémique. Merci aussi à Coraline Camebrac, la précieuse réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à tous ceux qui ont écouté ce numéro. À la semaine prochaine.